en plus d'écouter la musique, à ses moments perdus, il est DJ. Disque jockey. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu as déjà fait tel péché? Il était parmi nous, là, il va venir d'un instant. Et il a dit que oui, j'ai déjà fait. Il m'a dit, ben, quand tu as fait tel péché, est-ce que tu ressens quelque chose dans ton cœur? Tu ressens un mal-être? Il dit, oui, je me sens coupable. Et quand on se sent coupable, on va demander taouba. J'ai dit, mais pour la musique, il dit jamais. Il a dit, j'ai jamais ressenti de culpabilité en écoutant la musique. Vous voyez le danger? C'est un péché avec un silencieux. Vous ne comprenez pas, vous ne sentez pas, vous ne voyez pas où est le danger. Alors, cette musique, c'est une arme stratégique parce qu'elle touche le cœur, directement le cœur. Et c'est quelque chose qui consume votre cœur comme une tumeur. Et si Shaitan vous a eu avec la musique, il a eu votre cœur et il vous a eu entièrement. Alors mes chers frères, mes chères sœurs en islam, ressaisissez-vous. Nous avons un ennemi commun, comme on a dit tout à l'heure, c'est Shaitan. Inna Shaitan alakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Prenez-le comme votre ennemi. Historiquement, Shaitan a été chassé du ciel à cause de l'être humain. La haine que Shaitan nous voue est historique. Shaitan, lorsqu'il a été chassé du ciel, a demandé à Allah Ta'ala un délai. Et Allah Ta'ala lui a accordé le plus grand délai possible jusqu'au Qiyamah, depuis la création de Adam jusqu'au Qiyamah. Dans ce délai, cette longue vie, il a eu la plus grande espérance de vie de n'importe quelle créature sur la terre. Dans cette vie interminable qui dure des millions d'années, Shaitan s'est fixé un seul objectif. C'est quoi? D'emmener avec lui le maximum de personnes dans le Jahannam. Parce que Shaitan, c'est le seul qui est promis au feu de l'enfer. Aucun être humain n'est promis au Jahannam. On peut changer notre destin, sauf Shaitan. Et son but c'est quoi? C'est d'amener le maximum de gens avec lui. Et s'il peut amener avec lui un musulman, garçon ou fille, c'est la consécration pour Shaitan. Et Shaitan a affirmé haut et fort sa détermination. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Il a dit en ce sens que il viendra à l'homme de tous les côtés, devant, derrière, à droite, à gauche, c'est-à-dire il va utiliser tous les stratagèmes possibles pour vous piéger. Et parmi les moyens que Shaitan dispose, ça vous paraîtra incroyable. Vous dites que Moulissa Blaï exagère, mais non. Une des méthodes classiques de Shaitan est extrêmement accessible, wallahi l'azim, mes chers frères et sœurs, c'est la musique. Car Allah Ta'ala lui a accordé cette arme. Si on pouvait comparer ça à un choix des armes, Shaitan a eu la musique. Allah dit au Coran, wastafziz man istata'ta minhum bi-sawtik. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, par ta voix. La voix d'un chanteur, la voix d'une chanteuse provient, c'est, la voix c'est la voix de l'être humain, mais l'inspiration, le rythme, tout cela vient directement. C'est un wahi, et je n'abuse pas du terme, c'est une révélation de Shaitan à ses chanteurs et ses chanteuses. Que ce soit de la musique classique, que ce soit du jazz, du pop, du hard rock, du metal ou du rap, je ne sais pas quoi. Cela provient directement de Shaitan, c'est un don qu'il a eu, bisautika, d'étonner le maximum de gens par l'intermédiaire de sa voix. Je vous donnerai un exemple. Amenez un autre bédou, s'il te plaît. Un Saint-Pierrois, parce que même Dionysien là, n'est pas possible. À l'époque du Prophète sallam, déjà, à Mecca, le Prophète sallam invitait les gens vers Allah. Il racontait aux gens l'histoire du peuple de Had et de Samoud. Il y avait un homme qui s'appelait An-Nadr ibn al-Harith, il n'était pas musulman, et il essayait de détourner les musulmans du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quelle manière? Il avait acheté une chanteuse qui chantait donc des chansons claires, et c'était, elle avait une voix très belle. Et il essayait par cette méthode d'amener des gens auprès de lui. Et Allah Ta'ala a révélé وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar radiallahu anhum, ils ont fait, yani, isbat, il dit que ce qui est mensonge, jazakallah, ce qui est zawajakallah, diamin, jalla dans le bon madame. Ce qui est mentionné dans ce verset selon ces trois sahaba, c'est la musique. Comment il essayait de détourner les gens du droit chemin? C'était par les musulmans. Détourner, regardez ça. Détourner les musulmans du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Ajib ça. De l'endroit où il y a la Kaaba, auprès du prophète d'Allah, le meilleur des hommes, il utilise la musique et il arrivait à sa fin. Il arrivait à ses fins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette arme-là est extrêmement puissante. Vous voyez l'historique de la musique, comment depuis l'époque des Sahaba même, cette arme faisait ses preuves. La musique, comme j'ai dit tout à l'heure, agit directement sur le cœur. Parce que le iman, c'est dans le cœur. Et le cœur ne peut abriter en même temps le nifaq et le iman. C'est vrai que le prophète a dit en ce sens que la musique yumbitun nifaq fil qalb. La musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait pousser les fleurs ou les plantes. Et iman et hypocrisie ne peuvent cohabiter dans un même cœur. Quand le nifaq entre, il se fait de la place et peu à peu, il va pousser le iman vers la porte de sortie qu'Allah vous protège et nous protège. Et c'est pour ça que Saïd ibn al-Musayyib, descendant des Sahaba, il disait que la musique c'est ruqyatuz zina. C'est le ta'viz du zina. Cette parole de Tabi'in disait que la musique c'est comme la protection du zina. Le zina passe par la musique. Comment cela? Si Shaytan aille votre cœur, votre iman sera assez affaibli pour vous pousser vers le premier pas, vers le zina. Et comme j'ai dit, la musique, et ça c'est un peu plus complexe, qui sait qu'en terminal L, ça c'est grave ça. Ça je le dis tout le temps aux jeunes de Montreuil, c'est-à-dire un quartier de Saint-Denis. De nos jours, vous, tous les jeunes, comme on les bagages disait, vous faites tous STT, ST, STG. Vous voulez tous devenir comptable. Saint-Denis c'est comme ça. Il dit jusqu'à quand est-ce qu'on a l'argent de monde? Vous n'avez pas l'argent, les gros, l'argent, les autres personnes. Quand est-ce qu'on va voir un jeune garçon, je ne parle pas des filles, avoir le bac L? Qui c'est qui est en terminale L? Personne. Qui a l'intention de faire première L? J'ai l'impression qu'à Saint-Denis, il y a moi et un ami, nous sommes les deux seuls de Saint-Denis à avoir eu le bac L. Avec 8 heures de philo par semaine. Mais il y a son avantage. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Sigmund Freud? Il ne joue ni dans Mönchengladbach, ni dans Bayern München. Il ne connaît pas Ribéry, ce n'est pas un avançant allemand. Sigmund Freud, auteur de la psychanalyse, il dit qu'il y a 3 degrés, c'est un peu complexe, mais vous allez comprendre, vous êtes intelligent. Il y a la conscience, le subconscient, l'inconscient, le préconscient. Si vous n'avez pas compris tout, en terminale, vous allez voir en philosophie, Inch'Allah. Et la musique agit sur le subconscient, sur l'inconscient et le préconscient. Et pendant ce temps, la conscience, c'est-à-dire l'esprit ludique, logique, qui comprend, qui réalise tout, ne comprend pas qu'il y a un effet sur le background, sur ce qu'il y a dans la préconscience, dans l'inconscient, dans le subconscient. Et cette musique agit sur ces 3 termes-là, sur ces 3 choses, pour arriver au cœur et pour s'installer dans votre cerveau et pourrir votre cœur. Vous savez, le cœur est sensible au discours. Et quand vous écoutez le Coran, le cœur a un effet immédiat. Le Coran a un effet immédiat sur les cœurs. Mais quand vous écoutez la musique, cela a un effet également sur le cœur. D'ailleurs, regardez ça, un exemple. Je vous assure qu'on ne va pas être long. Un exemple. Lorsque le Coran était révélé, qu'est-ce que les polythéistes faisaient? Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. Je retrouve le verset. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. Dans certains commentaires, il dit qu'ils mettaient... Amène pas petit papier pour dire ma finie dans 5 minutes, hein, si c'est ça ou assise. Ils mettaient les doigts dans les oreilles pour ne pas entendre le Coran, parce qu'ils savaient quel était l'effet direct du Coran sur le cœur. Et c'est quoi le nifaq qui a eu... Attention, vous avez bas de doigts. Ok, ya Allah, il y a une heure de temps et quart. Maintenant, partie sur cette base, hein? Enfin, Inch'Allah. 10 et quart, vous serez libre, Inch'Allah. Alors, pour revenir à notre discours, Subhanallah, C'est quoi l'hypocrisie qui s'installe dans le cœur? C'est comment? C'est le cœur devient dur avec la musique. Votre cœur, écoutez, ressaisissez-vous. Le cœur devient insensible au ibadat. Et parfois, et ça j'ai vu, je suis désolé de le dire, j'ai accompagné beaucoup de groupes différents, beaucoup d'années, alhamdoulilah, au hajj. J'ai vu des jeunes venir au hajj, je les ai accompagnés. Et j'ai remarqué que lorsqu'un jeune a l'habitude d'écouter la musique, alors même dans des moments intenses, comme le wukuf à Arafat, ou à Makkah, ou à Madina, je vois que ces jeunes-là ne sont pas dévoués dans l'ibadat. Ils n'arrivent pas à pleurer en faisant doigt. Alors que je vous dis, moi quand j'arrive à Arafat, et qu'Allah nous fasse voir ça souvent, quand j'arrive à Arafat, je vois la plaine de Arafat, je pleure tout de suite. Tellement c'est fort, c'est puissant Arafat. Mais il y a des gens, pendant le wukuf, ils font doigt, ils ne sont pas concentrés. Je regarde ces jeunes, je dis, pauvres personnes, même dans ce moment-là, leur cœur ne se connecte pas directement à Allah. Le hajj est accepté, Inch'Allah, mais le cœur n'y est pas. Parce que la musique a tellement durci les cœurs, il y a une couche, il y a une carapace sur ce cœur qui est noirci, qui fait qu'il n'y a plus khushu', la dévotion ne peut plus entrer dans ces cœurs. Mes chers frères, ça c'est le danger imminent de la musique. Ça m'a dit que dans le corps il y a une partie, si cette partie est correcte, tout est correct, c'est le cœur. Si ce morceau est pourri, tout le corps se dégrade. Et les sahaba, radiallahu anhu ajma'in, avaient compris que même 5 minutes de musique, c'était néfaste. Une fois, Nafi', c'était un des élèves d'Ibn Umar, il marchait, il a entendu de la musique, quelqu'un qui faisait de la musique, il s'est bouché les oreilles. Alors une personne qui a dit, oh Nafi', que fais-tu? Il a dit que, c'était Ibn Umar, pardon. Et l'élève a dit, oh Ibn Umar, que fais-tu? Il a dit, je fais ce que le Prophète a fait une fois. En entendant la musique, il s'est bouché les oreilles. Parce que les sahaba, ils savaient que, même une minute de musique, il y a un effet direct sur vos cœurs. Et mes chers frères, mon objectif, ce n'est pas de vous dire, arrêtez tout de suite, c'est haram, vous aurez telle punition. Mon objectif, c'est quoi? C'est que vous ayez une autre vision de ce passe-temps. De vous-même, vous décryptez à travers mes paroles que cette action, c'est vraiment un danger, c'est un fléau pour mon iman. Est-ce que quelqu'un peut toujours penser que la musique adoucit les mœurs? La wallah. Certains vont dire que la musique déstresse. Je vous dis non, elle ne déstresse pas. La musique envoûte. C'est jadou la musique, c'est sihr. C'est de la sorcellerie. Comme Allah a accordé la sorcellerie à Shaytan comme arme. Allah Ta'ala a accordé la musique à Shaytan. Si nos cœurs sont emballés quand on écoute certaines musiques, c'est parce que c'est une arme directe de Shaytan. Et ce genre de choses, vous ne pouvez pas imaginer. Je vous donnerai un exemple. J'étais une fois à Jeddah, dans un hôtel 5 étoiles. J'étais en train de regarder, j'étais en train de zapper. Il y avait 40 chaînes. Je suis tombé, qu'Allah me pardonne. Après mes études, là, déjà à Alim, je suis tombé sur une musique. J'écoute jamais la musique, j'ai jamais écouté la musique dans ma vie, alhamdoulilah. Je suis tombé sur une musique, mais c'était en arabe. Et je voulais comprendre qu'est-ce qu'il disait. Et puis j'ai connu cette personne qui s'appelle Khalid. Je vous dirai pas le nom de la musique. J'étais en train d'écouter qu'est-ce qu'il dit en arabe. Vous voyez? Et à un moment donné, je me suis rendu compte que depuis, je sais pas combien de minutes, 10 minutes, ben, j'étais en train d'écouter la musique. J'étais absorbé par ses paroles. Le rythme était parfait. Le rythme était tellement attirant qu'en quelques secondes, de quelques secondes, c'est passé à 10-15 minutes. Et je n'avais même pas remarqué que cette personne chantait, c'était de la musique. Et derrière cette personne, il y avait des femmes qui dansaient et leur tenue était loin d'être le parda. Là, je me suis rendu compte que vraiment, c'est de la sorcellerie, ça. C'est impossible de capter l'attention de quelqu'un qui pourtant s'est toujours éloigné de ça d'une manière aussi simple que ça. Alors, ceux qui disent que c'est un moyen de plaisir, c'est attrayant, je vais vous dire que dans tous les péchés, il y a un plaisir. Dans tous les péchés, il y a un madja. Mais à la différence des autres péchés, comme je disais tout à l'heure, la musique est inodore, elle est indolore. Vous ne ressentez pas le danger, ni le sentiment de culpabilité. Et j'avais autre chose à développer, mais je vais raccourcir. À travers tous les siècles, depuis le Prophète sallam, sahaba, tabi'in, ceux qui sont venus après eux, jusqu'à de nos jours, dans l'Empire Omeyyade, à toutes les époques, ils ont mis en garde les gens contre les méfaits de la musique. Et là, on parle que des effets connus. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les messages subliminaux. Hier, on a vu un psychologue, comme dirait l'autre, un psychologue qui nous parlait de telle chose. De nos jours, les psychologues, ils savent que dans la musique, il y a ce qu'on appelle des messages subliminaux. Les sociologues, ils voient un comportement différent en fonction de la musique que les jeunes écoutent. Ils le découvrent là, maintenant. Mais le prophète sallam, il savait qu'il y a nifaq, il y a un changement dans le comportement d'une personne qui écoute la musique. Et il nous l'a dit depuis 1500 années. Et j'ai imprimé quelque chose, et pour vous montrer ma bonne foi, et pour montrer aux responsables que je respecte l'heure, je ne vais pas le lire, je le déchire, et je donne à quelqu'un qui le fera passer, vous ferez passer, et ce sont les méfaits de la musique sur la conscience, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un filtre, c'est la conscience. Votre conception du bien et du mal, c'est la conscience. Et à travers les messages subliminaux, cela dépasse la conscience. Tout ce que vous savez comme halal et haram, ça s'arrête. Cela passe directement par la porte de derrière et cela agit sur vos cœurs et vos radars, ce que votre moulissa vous a appris, cela est totalement inutile, il ne détecte pas, c'est comme des infrarouges, il ne détecte pas, cela agit sur votre cœur directement. Faites passer, faites photocopier et vous allez voir. Et cela concerne tous les types de musique. C'est pas que Iron Maiden ou alors le hard rock, c'est n'importe quelle musique, même s'il n'y a pas de messages subliminaux, il y a un effet direct sur le cœur. Et aujourd'hui, si on voit que les péchés sont banalisés, malgré le fait qu'on a beaucoup de madrasa, beaucoup de kitab, beaucoup de hafiz al-Qur'an, c'est par rapport à ce péché. Notre prophète a dit que cela engendre l'hypocrisie. C'est pas j'écoute la musique et je vais faire le zina de moi-même. Non, c'est j'écoute la musique et I don't know why. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis tenté de faire le péché. Je ne décide pas. C'est mon inconscient qui me pousse à faire le haram. Si jusqu'à maintenant je ne regardais pas les femmes, j'écoute la musique une heure de temps, j'ai envie de regarder parce que mon cœur a été atteint. Mes chers frères, c'est en résumé ce que je voulais dire de la musique. Et au-delà des messages subliminaux, au-delà de tout ça, le musulman se doit d'être conscient que jamais je dois me mettre dans une situation où Allah est en colère. Vous savez qu'il y a kiraman katibin, deux anges qui inscrivent toutes les bonnes actions et qui inscrivent tous les péchés. Vous savez également qu'Allah Ta'ala crée des anges matin et soir qui se relaient pour amener les informations auprès d'Allah et Allah connaît mieux. Quand je mets mon lecteur de MP3, quand j'écoute la musique le matin ou le soir, il y a trois choses qui se produisent. Un, j'appuie sur play, la musique démarre. Deuxième chose qui se produit, quand la musique démarre, l'ange qui est du côté de gauche, lui aussi il démarre. Il écrit, 10h à 10h30, musique écoutée. Et troisième chose, à l'heure de Asar ou à l'heure de Isha, cet ange, il remonte auprès d'Allah et il dit que Muhammad, Ishaq, Abdullah a fait tel péché le matin, il l'a repris le midi, il l'a repris le soir. Mes chers frères, si un musulman, il est conscient que tous les jours Allah voit mes erreurs, jamais de jamais, on ne pourrait continuer ce péché. On doit essayer de faire naître dans nos cœurs l'amour pour Allah, la crainte pour Allah et la honte, haya min Allah, la honte de désobéir à Allah Ta'ala. On fait ce niyat, Inch'Allah. Inch'Allah. Dernier point, et puis il y aura une intervention de 41 secondes, et puis c'est terminé. J'ai dit 10 ans et tard, vous allez voir comment c'est 10 ans et tard. Maintenant qu'on a vu les méfaits de la musique, parlons des boîtes de nuit, des discothèques. Pour être clair, pour aller directement dans le sujet. Vous avez vu les méfaits de la musique. Maintenant, si en plus d'écouter la musique, quelqu'un est prêt à se rendre dans un endroit, dans un lieu où il y a la musique, où il y a des femmes qui sont là pour faire le zina, où il y a des femmes qui sont là pour danser sur un bar, pour danser dans une cage, pour se dévêtir, et où il y a l'alcool, quelqu'un qui se rend dans ce genre d'endroit, ben il a concentré les trois méfaits sur lesquels on s'est concentré de ce séminaire. Alcool, certainement drogue et zamal qui vient avec, le zina accessible et la musique. Mais avant de se décider d'y aller pour une première fois, lorsqu'un jeune se dit, mes amis m'ont invité, j'y vais ou je n'y vais pas, ça ne se passe pas facilement ça. Il y a une phase de réflexion. Aller en boîte, ce n'est pas un péché qui se fait naturellement ou par inadvertance. C'est pas que j'ai vu une femme passer, j'ai regardé en une seconde. C'est pas comme ça que ça se passe. Aller en boîte, ce n'est pas un péché qui se fait par oubli ou par fatigue, comme rater un fajr. Là, ce n'est pas un péché qui se fait sur un coup de tête, ou un coup de colère. Je réponds à mes parents qui ont été désagréables avec moi, mais aller en boîte, c'est un péché mûrement réfléchi. Ça ne se fait pas directement. Et c'est là que mon iman entre en jeu. L'éducation de mes parents, que mes parents m'ont donné, entre en jeu. Le ta'lim que j'ai eu à la madrasa entre en jeu. Et mes chers frères et mes chères sœurs en islam, un pas de fait vers ce genre d'endroit, vers une boîte de nuit, c'est un pas de fait vers l'abnégation, le refus de la crainte d'Allah. Si je vais en boîte, c'est que je ne crains pas Allah. Si je fais en boîte, c'est que je ne considère plus qu'il y a une limite entre le halal et le haram. Si je vais en boîte, c'est que ça ne me dérange pas qu'Allah me voit ou qu'Allah m'entend. Peut-être même que je pense qu'Allah ne me voit pas et ne m'entend pas. Un pas fait vers une boîte de nuit, c'est peut-être un petit pas pour nous, ou un pas naturel pour nous, mais c'est un pas de géant pour Shaitan. S'il vous a eu avec ça, il vous aura toute votre vie. Et maintenant, à l'issue de la phase de réflexion, si un jeune s'est dit qu'il a fait le mauvais choix, il s'est dit que j'ai le droit de m'amuser un peu, ou alors si j'y vais pas, mes amis, mes jeunes vont dire, mais pourquoi il ne vient pas, c'est un intégriste, ou alors il n'est pas dans le move, il ne s'amuse pas avec nous, et il décide d'y aller, alors cette malheureuse personne, elle est victime de Shaitan, et elle ne savait pas trois choses. Premier point, c'est qu'en faisant ce choix, il se classe dans une catégorie de pécheurs qui ne seront jamais, voire très difficilement, pardonnés par Allah. C'est ce qu'on appelle al-mujahirun. Le premier hadith, kullu ummati maghfurun lahum illa al-mujahirun. Toute ma communauté peut être pardonnée par Allah, sauf ceux qui font les péchés ouvertement. Celui qui va en boîte, n'a pas peur de s'afficher dans le haram. N'a pas peur de montrer aux gens que je vais en boîte, j'écoute la musique, je danse et peut-être même je bois. Ce genre de personne, il se met dans un taklif, dans une difficulté dans ses relations avec Allah, comme aucun pécheur ne le fait. Et ça c'est extrêmement grave. Au 27e Ramadan, de n'importe quelle période de l'année, quand Allah pardonne, pour lui c'est un cas à part. Parce que le péché, il l'a fait ouvertement, sans hésiter à se montrer dans le haram. Et cette catégorie de personnes, mes frères, n'entrez pas dedans. Si vous y êtes, faites tout pour vous en sortir. Celui qui a fait ce premier pas, il ne savait pas que chaque pas qui a été fait, le jour de Qiyamah, le prophète m'a dit que « Ma'amin Abdin » en français, pour aller plus vite, 5 minutes, qu'un homme, qui chaque pas qu'il fait, Allah Ta'ala posera la question, ce pas a été fait dans quel but? Qui parmi vous se sent prêt pour répondre à Allah que j'ai fait 100, 1000, 2000 pas vers une boîte de nuit parce que je voulais m'amuser? Qui peut répondre auprès d'Allah? Réfléchissez avant de faire ça. Un pas de fait vers une boîte de nuit, ce sont les 5 sens et tous les membres du corps qui participent au haram. Et c'est rare de trouver un péché qui sollicite tous les membres du corps. Et le prophète a dit, Allah Ta'ala également a dit qu'en ce jour, yawma tashhadu 'alayhim al-sinatuhum wa aydihim, etc. Votre langue, vos oreilles, vos mains, vos pieds, le jour de Qiyamah auront la parole pour témoigner contre vous. Ça vous étonne comment une main, un pied peut parler. Mais celui qui sera victime de ses propres membres, le jour de Qiyamah, elle sera encore plus étonnée. Pas de voir ses membres parler, parce qu'il y aura des choses plus incroyables là-haut. Elle ne comprendra pas pourquoi mes membres témoignent contre moi. Alors que quand je vais en boîte, c'est pour procurer du plaisir à mon propre corps. Et en ce jour, ses membres témoignent contre moi. Et si quelqu'un se dit, et c'est presque terminé, je vais en boîte pour m'amuser, je ne bois pas et je ne vais pas chercher de filles pour faire le zina. C'est juste pour me détendre ou alors le samedi soir je m'ennuie. Deux points. Vous savez que lorsqu'on va dans le bazar, il y a un doigt à lire. Pourquoi? Parce que dans le bazar, Allah déteste cet endroit. Alors que dans un marché, on peut faire des transactions licites. Autre chose, quand on passe près d'un endroit où le azab d'Allah est descendu, il ne faut pas rester. Il faut passer vite et demander protection à Allah et avoir le cœur rempli de remords. Même si le péché, l'erreur ne nous concerne pas, mais c'est un endroit qu'Allah n'a pas aimé. Maintenant, que dire de la personne qui va dans cet endroit où il y a tous les harams réunis, et elle y va volontairement. Je vous citerai une histoire et puis c'est terminé. L'histoire, en général, je n'aime pas les histoires. Mais c'est une histoire qui s'est passée dans un pays arabe, rapportée par un cheikh qui s'appelle Nabil Al-Iwadi. Ceux qui connaissent, ils savent c'est qui. Il dit que dans un pays arabe, que je ne citerai pas le nom, il y avait trois shababs, trois jeunes qui voulaient découvrir d'autres péchés. Ils ont quitté ce pays, ils sont partis vers un pays occidental où il y avait des boîtes. Ils ont découvert c'est quoi l'alcool et les femmes. Ils sont mis à boire et à boire. Et à un moment donné, il y avait un parmi eux qui a fait un arrêt cardiaque. Il était dans la phase, il était dans l'agonie. Il était en train de mourir. Et ses deux amis ont eu peur. Ils sont venus vers lui dire, oh mon frère, je ne sais plus comment il s'appelait, Abdallah. Li la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tu es en train de mourir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je dis en arabe, ha tu ka'si khamrin, wa ta'ali ya anti. Et dit, dis pas ça, dis la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il disait? Amène-moi un autre verre d'alcool. Oh, jolie fille, viens à côté de moi. Trois fois il a dit ça, et il a quitté ce dunya. Ça c'est le danger de ce genre d'endroit. Mes chers frères, nous voulons éveiller votre conscience de musulman. Nous voulons que vous ayez une plus grande estime de vous. Vous pouvez faire des choses énormes. Vous pouvez atteindre des sommets dans cette tranche d'âge par ces ibadat. Mais on a tellement peur que vous succombiez à ces pièges de shaitan. Vous valez mieux que ça. Est-ce que vous êtes obligé de répondre aux exigences de la société qui associe jeunesse à amusement en boîte de nuit? Est-ce que vous êtes obligé de faire comme vos amis pour garder un rang et à faire tous les péchés que les autres font? Alors que les sommets qu'Allah vous a promis, c'est inestimable. Dans notre société, on voit la jeunesse comme la perversion, comme la pire des catégories. Alors que dans l'islam, la jeunesse est synonyme d'espoir, de renouveau. Les meilleures des actions ont été accomplies par les jeunes dans toute l'histoire de l'islam. Je vous pose trois questions et je vous lâche. D'accord? Ashabul Kahf, c'était qui? C'était des jeunes. Qui c'est qui a permis au Prophète sallam de faire la hijra? C'était des jeunes. L'homme qui a cassé les idoles, c'était qui? Qui avait ce culot? Ibrahim alayhissalam qui avait moins de 20 ans. Dans la madrasa de Al-Arqam ibn Al-Arqam, il y avait qui? Hazad Ali avait 18 ans. Comme Mufti Shakir disait, c'était pas des vieux avec des grandes barbes. Saad ibn Abi Waqqas avait 17 ans. Suhayb al-Rumi avait 19 ans. Al-Arqam lui-même, il avait 11 ans. Uthman ibn Affan avait 20 ans. Umar avait 26 ans. Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah avait 27 ans. Zayd, il écrivait le Wahi à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, on fait quoi? On écrit SMS la journée. Lui, à 20 ans, il faisait partie des personnes qui écrivaient le Wahi. Moussa bin Umair a amené Din Madina. C'était un jeune. Comprenez qu'à cet âge-là, vous êtes promis un destin énorme. Alors mes chers frères et sœurs en islam, dans cette phase de votre vie, quand on vous appelle, on vous invite, vous êtes jeune, dynamique, beau, stylé, comme tous les Dionysiens le sont exceptionnellement. Vous avez votre Seat Leon avec les jantes alu, et on vous invite vers le fashion, comme Oli Bagat dit, moi je préfère le Zaza. On vous invite au Zaza, au safari, au jungle. On vous dit, habillez-vous en blanc, il y a une white party ce soir. Ou alors il y a une soirée infirmière, une lady party. Si vous faites preuve de patience, vous placez la crainte d'Allah avant tout. Alors, Allah, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la même action que Youssouf alayhi salam. Et vous êtes en train d'acheter votre paradis. Vous réservez votre place sous l'ombre du trône d'Allah. Une place réservée pour le jeune qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez l'avantage que vous n'avez pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous l'obéissez. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Alors, et j'ai terminé. Si je n'ai jamais succombé à ces pièges de shaitan, je fais le niyat de ne jamais y aller. Si j'ai été en boîte une fois dans ma vie, je fais l'intention de ne plus jamais y retourner, de faire un pardon, tawba nasuha, et de m'arrêter à là. Et permettez-moi, 41 secondes, j'appelle Yacine. Yacine, s'il te plaît. Comme le temps est très court, 10h25, mon programme sera terminé. Yacine, tout d'abord, je t'appelle Yacine, tu as quel âge? Tu as 17 ans. C'est quoi ta situation? C'est toi. C'est quoi ta situation dans la vie?
J'ai 17 ans, je suis étudiant.
D'accord. Et Yacine, c'est quoi ta relation avec la musique jusqu'à maintenant?
Ben, ça me dit rien. C'est mon plus gros défaut, ça, j'ai fait la musique tout le temps. Que ce soit la journée, le soir et tout, ben, je suis tout le temps avec mes écouteurs, scotchés, etc. Et à part ça, je suis DJ, justement, comme je disais.
Parle plus fort.
Comme tu disais.
Parle fort, moi, les filles entendent. Voilà.
Ouais, ok.
En plus d'écouter la musique, quels sont tes rapports avec la musique en plus de ça?
Ben, déjà, je dors et je me réveille avec la musique.
Ouais.
Et je suis aussi DJ, part-time DJ, par conseillé. Donc voilà, ça c'est mes rapports.
D'accord. Est-ce que, à part depuis 3 jours que tu es là, tu n'as plus écouté la musique, est-ce que tu as ressenti quelque chose de positif intérieurement?
Ben, on va dire que j'ai découvert que c'était remplaçable, donc c'était pas un truc que tu pouvais par te passer. Quand tu fais ton amas, quand tu es avec tes amis, à la madersa, etc., c'est facilement remplaçable et que c'est bien, quoi.
Yacine, si un jeune vient te voir, il te demande, il te dit, je vais aller en boîte pour la première fois, je ne sais pas si j'y vais. Qu'est-ce que tu dis à ce jeune? Vas-y, essaye, on n'y va pas. Toi qui as été dans beaucoup de boîtes.
Ben, je déconseille fortement, puis l'ambiance, ça va. Des fois, tu vois carrément des musulmans en train de boire, etc. Ils sont un peu morts.
Au pire des cas, tu as déjà vu des gens vomir?
Ouais, bien sûr.
Et ils sont allongés de leur vomi. Musulmans.
C'est courant, c'est ce qui se passe. Quand ils sont dans le paradis, c'est là, je pense que je vais débarrer.
Yassine est en train de dire qu'il a déjà vu des musulmans qui fréquentent la masjid comme lui et tellement ils ont bu ivres morts qu'ils vomissent et ils s'endorment de leur vomi. Et il m'a dit ce matin ou hier soir que depuis qu'il a vu ça, il s'est dit que je n'y mettrai jamais plus les pieds. Et si quelqu'un me demande, je dis n'allez pas dans cet endroit. Yassine, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes pour arrêter ce genre de péché? Toi qui as vraiment tout connu, en deux mots.
Ben, déjà, de s'écarter de cette mode et de trouver quelque chose d'autre pour faire. Donc, par exemple, je ne sais pas, il y a plus souvent la marche comme marcher 3 jours ou remplacer par un sport ou quoi que ce soit, mais c'est plus large.
Tu penses qu'on peut arrêter?
Ouais, c'est faisable. C'est faisable.
Et toi, tu as fait l'intention de tout arrêter, Inch'Allah, au fur et à mesure?
J'espère arrêter. Ben, je vais aller de moins en moins pour jusqu'à arriver dans un meilleur résultat, Inch'Allah.
Faites doigt qu'Allah Ta'ala donne à ce frère Istiqama que réellement il arrête tout ça. Il a fait l'intention, mais qu'Allah le garde ferme. Et que tous les jeunes qui étaient dans cette erreur, tu peux descendre, Jazakallah khair. Eux aussi, ils peuvent retourner vers Allah. Et pour conclure, avant de passer la parole, il y a des questions et des réponses. Et on passera la parole au président également du centre islamique. Mes chers frères et mes chères sœurs, comment être réellement convaincu qu'il est capital de tout arrêter dès maintenant? Mes chers frères, quand vous êtes jeunes, vous ne pensez pas à la mort, c'est clair. Mais c'est tout à fait normal. Mais je vous dirai quelque chose. Lorsque Malekal Maud vient prendre votre âme, il y a 2 cas de figure. Soit vous le voyez comme un ange illuminé, soit vous le voyez comme un shaitan qui fait peur. Celui qui va en boîte, qui a écouté la musique, vous pensez qu'il va voir Malekal Maud de la même manière? Posez-vous la question, réfléchissez et tirez les conclusions. Dans la tombe, les actions viennent auprès de vous. Qu'est-ce que vous voulez voir dans la tombe? Coran, Salat, Zikrullah ou alors musique et boîte de nuit? Posez-vous la question. La tombe est soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Comment vous voulez que votre tombe soit? Ça aussi, posez-vous la question. Quand les anges posent les 3 questions, pensez-vous que quelqu'un qui a tout fait comme haram, il répondra les questions avec autant de facilité qu'un jeune qui s'en est abstenu? Posez-vous la question. Le jour de Qiyamah, chacun sera avec ceux qu'il aime. Si vous avez aimé le prophète sallam, est-ce que vous serez comme quelqu'un qui a aimé tel ou tel chanteur? Bien Mufti Shakir, c'est fini. Là aussi, posez-vous la question. Il y a 2 catégories de personnes. Un qui reçoit le livre de compte de la main droite et qui va dire à tout le monde, ha umuqra'u kitabia, laisse micro là. Lisez mon livre. Et il y a un autre qui prendra son livre de compte de la main gauche. Il dit que j'aurais aimé mourir et ne jamais être ressuscité. Comment vous voulez être le jour de Qiyamah? Choisissez votre destin par rapport à vos amal sur cette terre. Auprès de la balance, vous voulez voir Zikrullah et bonne action de votre balance ou vous voulez voir musique et autres péchés? Mes chers frères et mes chères sœurs, ô Abdallah, ô Ibrahim, ô Muhammad, pensez à tout cela lorsque Shaitan vous insuffle et faites dua. Qu'Allah Ta'ala vous donne la patience nécessaire de vous en sortir ou de ne jamais tomber. Je vous demande beaucoup de pardon. j'ai dépassé le temps, mais j'espère que ces quelques paroles auront, inshallah, un effet direct sur vos cœurs. Qu'Allah vous donne l'istiqama, qu'Allah vous protège, vous donne la réussite de vos études, que à l'âge de se marier, Allah vous donne un bon mari pour les femmes, les filles, une bonne femme pour les garçons, qu'Allah vous donne un bon travail, un jour de bons enfants, qu'Allah vous protège des maladies. Prenez considération de quelque chose. Je connais beaucoup de personnes qui sont handicapées ou qui ont une déficience par rapport à des accidents. Ce sont des jeunes qui ont 17, 18 ans. Ils ne peuvent pas marcher. Ils ne pourront jamais venir à la masjid. Certains ne pourront jamais lire le Coran comme vous. Leur rêve, c'est quoi? C'est d'avoir une journée où ils peuvent faire ce que vous faites. Leur rêve, c'est quoi? C'est un jour qu'ils peuvent se réveiller, prendre le bain, s'habiller seul, sortir et marcher dans la rue. Mais c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais faire. Ils savent que jamais ils ne pourront se marier, jamais ils ne pourront travailler, ils n'auront jamais une vie normale. Ils ont votre âge, mais lorsqu'on est handicapé, on ne s'appelle pas un jeune, on s'appelle éternellement un handicapé. Et Allah vous a protégé, Allah vous a donné ses ni'amas, la santé, le bien-être. Apprenez à utiliser ses bienfaits comme Allah vous l'a demandé. Si vous utilisez votre temps, votre jeunesse, votre force dans l'obéissance d'Allah, vous avez tout eu, vous aurez les plus hauts degrés. Mais si vous ne le faites pas, Allah seul vous protège. Qu'Allah t'en tawfiq de comprendre, de faire un mal, de propager à nos mères et à nos sœurs, et que ces paroles changent notre vie. Wa ma tawfiqi illa billah, jazakumullah khair.